Panorama Économique.
Très bonne fin de semaine à toutes et à tous. C'est l'heure de Panorama Économique sur Radio Okapi et je vous en souhaite la bienvenue. Les titres avant de commencer. Les mines d'or de Kibali Gold Mine officiellement ouvertes à la production, une production qui va atteindre 2000 kilos d'or le mois. La cérémonie inaugurale a eu lieu vendredi à Doko, c'est en province orientale. La grève des armateurs du Congo annoncée lundi a vite été suspendue le lendemain. La promesse du ministre des Transports, Voies de Communication de supprimer dans un bref délai les taxes dites illégales aurait suffi pour mettre d'accord les syndicalistes. Et puis, Panorama Économique revient sur la grogne salariale à la Société Nationale d'Assurance. Les agents et cadres de cette entreprise sont passés à la vitesse supérieure lundi. Ils ont organisé un sit-in devant le ministère du portefeuille, leur tutelle. Mais quelle est la vérité dans ce qui se passe à la SONAS? Notre invité a promis d'apporter la lumière et cet invité, il s'appelle François Nzekouye. Il est analyste économique, mais pour l'instant, il est député. Il siège à l'Assemblée nationale. Honorable François Nzekouye, bonjour et bienvenue à Panorama Économique.
Bonjour Daniel Tambinzoni.
Panorama Économique, le dossier.
Le premier dossier pour commencer, le mot d'ordre lancé par le président des armateurs du Congo invitant les siens à la grève sur toute l'étendue du pays a été respecté lundi. Conséquence, il n'y a pas eu de trafic sur les eaux de la RDC. C'était pour s'insurger contre la taxe dite d'embarcation, mais 24 heures seulement après, c'est-à-dire le mardi qui a suivi, le même syndicat a fait une déclaration pour suspendre cette grève. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Dans l'entretemps, en tout cas, le syndicat motive sa nouvelle position par la foi qu'il fait à la promesse du ministre des Transports et Voies de Communication, Justin Kalumba, qui a eu des entretiens jusque tard dans la nuit le lundi, a demandé, selon les armateurs, au moins 30 jours pour que ces taxes soient supprimées, après concertation certainement avec les autres ministères impliqués. Didier Mukoma, président national du comité professionnel des transports fluviaux, est au micro de François Kadima.
Il nous a expliqué à quoi est dû le retard sur la mise en application de tout ce que nous nous sommes entendus à travers les concertations qui ont eu lieu dans son ministère avec certains experts des autres ministères. Nous croyons à sa bonne foi. Je demande à tous les armateurs de reprendre leurs activités, attendant que nous puissions trouver un compromis dans un mois que le ministre des Transports et des Communications nous a demandé. Il y avait 59 taxes et sur les 59, il y a 46 que nous avons jugé qu'ils étaient illégales et qui devaient être supprimées.
Ça, c'était M. Mukoma, le président du comité professionnel des armateurs du Congo. Une grève annoncée le lundi et le mardi, c'est la grève tout de suite qui est levée. Il s'insurgeait comme ça contre 59 taxes, dont 46 seraient, selon eux, illégales. Notre invité va devoir donner son avis, son point de vue par rapport à cette situation. Et notre invité, je vous disais, c'est l'honorable François Nzekouye, à qui je donne la parole.
Et je crois, la première chose qu'il faut dire, que l'État a besoin des taxes pour vivre, pour faire fonctionner l'État, pour construire les routes, pour construire les infrastructures portuaires, aéroportuaires. Et donc, c'est une nécessité. Aucun État ne vit sans taxes. Mais je crois également aussi que les taxes doivent être légales. Il y a effectivement une multiplicité de taxes qui gênent les secteurs économiques dans notre pays. Et il faut que le gouvernement s'attelle à les supprimer.
Monsieur François, si vous étiez à la place des armateurs, est-ce que c'est réaliste cette promesse du ministre des Transports qui demande au moins 30 jours négocier avec d'autres ministres pour arriver à supprimer cette taxe? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment réaliste?
30 jours. Je crois que c'est réaliste dès lors que l'on dit que ces taxes sont illégales, parce qu'il faut faire attention avec les déclarations.
Mais ce n'est pas aujourd'hui que les gens décrivent cette situation.
Vous avez raison, mais je crois qu'il y a une certaine amélioration. Il y a des évolutions. Mais même Dieu n'a pas créé le monde en un jour. Nous avons quand même vécu dans un grand désordre dans ces pays et la situation est en train de s'améliorer.
Mais là, il y a 46 à supprimer sur les 59. 46, c'est pas peu.
C'est ce que je viens de vous dire. J'ai dit, si les taxes sont illégales, elles doivent être supprimées. En même temps, effectivement, il est anormal qu'un seul opérateur puissent payer autant de taxes. Donc il faudrait absolument que on arrive à normaliser ce genre de situation et savoir exactement quelles sont les taxes qui doivent être payées. Même s'il y a plusieurs services, on peut avoir une seule taxe, mais cette taxe-là peut être utilisée pour servir à de nombreux services. Donc c'est déjà le fait de devoir aller à différents guichets. Il y a une perte énorme de temps,
oui.
Et d'efficacité.
Oui.
Et donc, les systèmes de guichets uniques doivent arriver à s'implanter un peu partout.
Même si ce sont des taxes légales, mais du fait que vous allez d'un bureau à un autre, ça fatigue.
Absolument.
Et ça donne justement l'idée d'illégalité.
Les quotités qui
je
sont...
Je ne veux pas vous couper la parole, François Ntekouyé, mais je vous garde puisque vous parlez du guichet unique. On quitte les armateurs, on va au Kassai oriental où les opérateurs économiques de cette province sont inquiets de leur situation par rapport à l'approche de l'expiration du délai de 2 ans qui a été accordé par l'OADA aux commerçants et entreprises congolaises. Ils ne sont toujours pas en mesure d'obtenir au niveau de la province le nouveau registre de commerce. C'est ce document qui leur permettra d'obtenir le registre de commerce et de crédit immobilier, le RCCM, tel que mentionné dans le droit OADA. Ils craignent pour cela perdre la qualité de commerçant devant les juridictions et même lors du dédouanement de leurs marchandises. Dominique Ilunga, directeur provincial de la Fédération des entreprises du Congo, section Kassai Oriental, est au micro de François Tibenji.
On dit qu'on a commencé avec les guichets uniques à Kinshasa. Pourquoi Kinshasa et pourquoi pas l'intérieur du pays? Ce n'est pas de la responsabilité de la FEC, mais c'est de la responsabilité de l'État congolais. Et là, nous disons aujourd'hui, l'État congolais a voulu parler de la décentralisation. Et cette histoire de guichet unique, on ne l'a pas parlé aujourd'hui. Nous avons été au Bas-Congo. Mais pourquoi il a fallu attendre pour que les contacts soient pris avec le directeur général? Parce que le même directeur général, nous étions en réunion avec lui au Bas-Congo. Dans les cadre de l'amélioration du climat des affaires. Pourquoi attendre à quelques mois de moratoire l'État congolais? Donc, il doit s'assurer du bon fonctionnement de la justice. La justice a dans ses prérogatives le tribunal du commerce, qui devait en même temps avoir dans le cadre de son fonctionnement le registre des commerces et des crédits mobiliers.
Depuis un certain temps, nous lançons cet appel aux opérateurs économiques, aux commerçants, aux entreprises, que à partir du 12 septembre 2014, le nouveau registre de commerce sera désormais un document caduc, qui va tomber caduc, qui sera remplacé par le registre de commerce et de crédit immobilier, le document que va octroyer l'OADA. Et ce document, on l'obtient gratuitement au guichet unique de la création des entreprises. Et voilà, tout de suite, Mbujimaï déplore le fait, vous avez parlé du guichet unique, on doit passer par le guichet unique, mais c'est guichet unique n'installé pour l'instant ne fonctionne qu'à Kinshasa et ces gens ont trop de mal à obtenir le nouveau document. Il faut que ce guichet unique bouge.
Oui, en fait, d'abord, quand je parlais des guichets uniques, il faut nuancer, il y a plusieurs guichets uniques. Ce dont la FEC Kassai parle,
guichet unique,
pour la création des entreprises. Donc, il faut que ce soit clair, il y a aussi des guichets uniques pour la perception des taxes. Donc, les services des guichets uniques pour la création des entreprises exigent qu'il y ait une dotation pour pouvoir les faire fonctionner. Et je sais que pour le budget 2014, nous avons prévu des allocations pour permettre à ce que les guichets uniques pour la création des entreprises s'implantent dans les chefs-lieux des provinces.
Mais ces moyens ne sont pas encore mis à la disposition du guichet, notamment parce qu'on est au mois de mai, on commence le mois de mai, c'est qu'il y a plus pratiquement que 4 mois. Donc si rien ne se fait pendant ces 4 mois, si le guichet n'est pas déployé à travers les provinces, les opérateurs des provinces auront trop de mal à avoir le nouveau document.
Oui, je crois que c'est un retard qui est justifiable. Dans la mesure où vous savez qu'au Parlement, nous avons d'abord voté un collectif budgétaire parce qu'on n'a pas pu voter le budget à temps pour cette année. Et donc, logiquement, les instruments pour la mobilisation des recettes de l'État ont été rendus disponibles en retard. Et donc, il peut y avoir un retard quelconque, mais pas une mauvaise foi, ni l'intention de gérer dans la malgouvernance.
Panorama économique sur Radio Okapi, troisième et dernier dossier de la semaine. Nous en venons à présent à la situation qui prévaut à la Société nationale d'assurance, la SONAS. Donc, nous vous avions promis la semaine dernière, au cours de la dernière émission, de suivre de près cette situation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Eh bien, une centaine de cadres et agents actifs et retraités de la SONAS organisés dans un collectif ont été ce lundi devant le ministère du portefeuille, un sit-in organisé pour réclamer, nous l'avions dit, leurs arriérés de salaire cumulés depuis 2009 et demander l'implication de l'autorité de tutelle dans cette affaire. Cette situation est liée, selon eux, à la mauvaise gestion du comité actuel qu'ils désavouent, comme nous l'explique un membre de ce collectif.
Je suis agent, je produis pour que la SONAS vive le mois de juin 2013. Rien que juin jusqu'à avril 2014, ça fait 12 mois. Ajoutez-y les gratifications qui constituent tout un salaire. Les agences, il y en a qui ont 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mois d'arriéré de salaire. Là, je ne parle que de 2013 et 2014. Depuis que Mme Aguito Carole est à la SONAS, elle a trouvé 3 mois d'arriéré de salaire laissé solidairement avec M. Herman Mbonyo, qui était l'ADG. Sitôt qu'elle a été placée là, bah, il dit, j'ignore les arriérés que Herman a cumulés. Bon, qu'à cela tienne. À partir du moment où elle a été là, jusqu'aujourd'hui, nous n'allons que d'accumulation en accumulation. Ça, c'est Kinshasa qui est le miroir de la République. L'intérêt, c'est un copie.
Voilà, je l'ai annoncé dans le titre, François Ntekouye, vous avez promis de donner la lumière à cette situation qui prévaut à la SONAS. Quelle lumière vous apportez alors que vous êtes député, vous n'êtes pas agent, vous n'êtes pas cadre à la SONAS?
Oui, en tant que parlementaire, nous sommes tenus de nous enquérir des situations comme celle-là pour pouvoir interpeller les dirigeants. Et par un concours de circonstances, les jours où cette grève ou cette manifestation s'est tenue au ministère du portefeuille, j'avais réunion avec la ministre du portefeuille sur un certain nombre de dossiers que je suis. Et j'ai été interpellé par ces agents pour dire, député Namiso Yeoyo, notre député là, il doit plaider notre situation. Donc, j'ai écouté d'abord ces agents-là, une centaine d'agents, vous avez dit, et j'ai remarqué un premier fait, c'est qu'il n'y avait aucun syndicaliste dans le groupe, ce qui est normal. Les revendications dans une entreprise se font par les syndicats. Et je me suis renseigné auprès de la direction pour savoir quelle est la réalité par rapport à ces problèmes que nous entendons déjà depuis plusieurs mois. Et voilà ce qui m'a été rapporté par la haute direction de la SONAS. Premièrement, que en 2008, l'enveloppe salariale de la SONAS était autour de 630 millions de francs congolais. Quand le chef de l'État a promulgué l'ordonnance présidentielle relative au SMIG, le comité de gestion a triplé, tenez bien, triplé les salaires des agents, sans que pour autant les recettes de la SNEL ne puissent tripler. Voilà la base de la SONAS.
Oui.
Déjà, voilà la base du problème. Et quand M. Herman, parce qu'il s'agit de lui qui était directeur général de la société, a été révoqué, les nouveaux comités ont trouvé des arriérés de 9 mois, au lieu de 3 mois, comme les agents viennent de le dire.
Alors, qui dit vrai?
Moi, j'ai les documents et je suppose que la haute direction ne peut pas se permettre de nous raconter des histoires parce que nous avons le pouvoir de contrôle. Et donc, par la suite, comme je venais de vous dire, il y a eu une réunion avec les syndicats pour deux raisons. D'abord, pour trouver la meilleure manière de régler ces problèmes. Est-ce qu'il faut commencer à payer les salaires à chaque mois ou il faut commencer par les arriérés? Les syndicalistes ont préféré que l'on commence par les arriérés parce qu'ils estiment que si on laisse les arriérés quelque part, on les oubliera. Et donc, ils ont commencé à payer les arriérés et ils se sont mis d'accord pour réduire par de façon significative les salaires pour que la pression salariale ne soit pas trop forte sous la production, sans ignorer que la SONAS a comme mission principale de régler les problèmes des litiges, des dégâts qui sont causés par les gens qui se sont assurés. Cela a été fait et les arriérés de salaire ont commencé à être payés. Et quand vous regardez les tableaux qui m'ont été fournis par la SONAS, on remarquera que, effectivement, au niveau du siège, donc de la direction générale, ils ont été payés jusqu'au mois de juin 2013. Mais les autres agences, par exemple Matadi, par exemple, j'ai été payé jusqu'en décembre 2013. Et Boma, septembre 2013. Quand nous allons au hasard, hein, agence de Gombe, jusqu'en janvier 2014. Et c'est les Maluku, janvier. DGI Gombe, février. Et donc, vous vous rendez compte que les gens qui parlent des 13 mois, 14 mois, sont loin de la réalité. Les écarts, effectivement, nagent de 1 mois à 10 mois. c'est vrai, c'est beaucoup.
C'est beaucoup.
Il faut absolument s'en inquiéter.
Ça, c'est
donc,
Kinshasa.
Oui, en fait, c'est les sièges, donc au niveau de la direction générale, simplement, parce que l'agence, la DGI à la Gombe, comme je vous ai dit, eux, ils sont payés déjà jusqu'au mois de février. Donc tout Kinshasa, en fait, si vous regardez la situation de Kinshasa, ceux qui sont les plus en retard, c'est Mongafula, qui ont été payés jusqu'au mois de mars, Kinsuka, avril, Fikine, juin, Kimbansé, que juillet, ainsi de suite. Donc, il y a une variation liée à quoi? Ça, il faut que l'opinion le sache. Les agences de la SONAS fonctionnent de manière autonome. Chaque agence paie ses salaires sur base de ses recettes.
Nous avions eu tous ces éléments honorables.
Oui.
Mais ça pose un problème. Lorsque l'agence produit, elle envoie ses recettes à la direction générale, à la direction générale de faire le mouvement retour, la rétrocession. Mais c'est cette rétrocession qui ne va toujours, qui ne marche toujours pas.
Il semble que ce n'est pas vrai. Il semble plutôt que les agences gardent tout l'argent chez eux et ils envoient une quote-part qui est due à la direction générale. C'est tout le contraire. Donc, il y a une retenue à la source. Donc, vous comprenez qu'à ce niveau-là... Donc,
si aujourd'hui, si, les agents doivent réclamer quelque chose, à qui s'adresser?
D'abord, à chaque agence. Chaque agent...
À chaque chef d'agence.
Oui, doit aller vers son chef d'agence. Et il faut une émulation entre agences. Ça veut dire que chaque agence doit attirer plus de clients pour avoir plus de moyens et donc arriver à éponger ces différents arriérés qui existent et qui posent un problème.
Mais c'est depuis 2008 que ces arriérés, aujourd'hui 2008 à 2014, c'est 6 ans quand même.
Voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Je ne suis pas là en train de défendre qui que ce soit. Oui. Je vous donne l'explication que j'ai reçue.
Oui.
Vous vous rendrez compte que des efforts notables ont été réalisés différemment des recettes qu'obtient chaque agence.
Mm-hmm.
Mais la solution à ces problèmes peut arriver aussi assez facilement.
Comment?
Parce que l'État congolais doit à la SONAS aujourd'hui 17 millions de dollars.
Et quel est le moyen de pression que la SONAS utilise pour que l'État lui paye cet argent?
Ça, il faudrait demander à la direction, mais déjà, par le fait de nous le dire, nous, parlementaires, c'est un moyen de pression. Parce que nous allons poser la question au Premier ministre, au gouvernement, pourquoi vous ne payez pas ce que vous devez à la
sans
SONAS?
Sans rentrer dans les discussions politiciennes, honorables, on sait que le Parlement n'est pas assez fort dans ce sens-là, dans le contrôle, parce que chaque fois que les ministres sont interpellés à l'Assemblée, il n'y a pas une suite qui satisfasse le public.
Non, en fait, le public parfois demande trop. Qu'est-ce que la population devrait attendre des contrôles parlementaires, ce qui est une amélioration, et non pas nécessairement une révocation ou c'est pas une démission d'un ministre.
Okay.
Parce qu'en fait, c'est plutôt ça, les spectacles que les gens attendent. Mais quand nous, on interpelle les ministres, soyez certains qu'ils se bougent un tout petit peu pour pouvoir améliorer les choses. Oui.
Et si nous devons revenir à notre sujet sur la SONAS, je ne sais pas si on vous a soufflé ça à l'oreille, ce qui fâche aussi les agents à la SONAS, ce sont les dons de la direction générale à des partis politiques, pour ne pas citer le nom ici, mais c'est des dons signés, dons SONAS, qu'on voit de la part de la SONAS, de la direction générale de la SONAS, à un parti politique, par exemple. C'est ça qui fâche aussi. Nous avons des arriérés, on ne nous paye pas, mais on fait des dons à un parti politique.
Je ne suis pas au courant de ces faits-là, que la SONAS ait fait un don à un parti politique quelconque. J'ai par contre appris, et j'étais présent, à Goma, quand l'on a inauguré la construction d'une nouvelle cathédrale, qui a eu une participation personnelle d'une dame qui s'appelait Carole Aguito. Est-ce que nous devons mêler le fait qu'un individu, Daniel Tamizoni, fasse un don et dire que c'est Radio Okapi qui l'a fait? Il y a une nuance à cela. Ça, j'ai vécu personnellement et je crois que c'est de son droit à elle de faire des dons à qui elle veut quand elle en a un peu de moyens. Parce que nous tous, nous avons tout de même un peu de moyens.
Disons, je ne veux pas non plus prendre la part des agents,
mais
les agents ont brandi, on nous a fait voir les chaises en plastique derrière lesquelles on a écrit « Don SONAS » au quartier général du PPRD.
En tout cas, moi, je suis membre du PPRD, je ne suis jamais assis sur une chaise avec ces indications-là. Peut-être que ça existe, il faudrait les dénoncer. Ce n'est pas normal. Et donc, moi, j'ai dit qu'il y a des problèmes à la SONAS. Il faut l'admettre. Et les problèmes de la SONAS ne sont pas que l'effet de la direction de la SONAS. Je viens de vous dire, par exemple, que le gouvernement doit 17 millions à la SONAS. Autant que le gouvernement doit de l'argent à la SNEL et à la Régie des eaux. Il faudrait que l'État congolais commence à éponger ses dettes, ça aidera ses entreprises parce que c'est lui le propriétaire.
Et nous pensons que la direction avait sonné à la bonne porte, remettre les doléances à un député, c'est-à-dire c'est aussi un des moyens par lequel passer pour trouver solution à ces problèmes.
Absolument, je les remercie du reste d'avoir donné ces informations, mais il est clair que nous allons approfondir la question. Nous allons échanger avec les syndicalistes de la SONAS pour mieux comprendre aussi les sons de cloche, mais aussi nous allons parler avec le gouvernement pour lui demander pourquoi il met la SONAS dans tant de difficultés. Au-delà de ça, il y a des sociétés qui ne s'assurent pas au Congo. Nous n'avons qu'un seul assureur dans notre pays, mais l'on permet que des entreprises puissent s'assurer à l'étranger, et même des institutions. C'est le cas, par exemple, de la MONUSCO. Rien n'est caché là-dessus. La MONUSCO n'est pas assurée à une voiture du Congo.
Oui.
Et donc, il faudrait quand même qu'il y ait plus d'efforts pour donner à notre société d'assurance des moyens qui lui permettent non seulement d'être capable d'assurer les risques, mais en même temps de mettre dans de bonnes conditions les agents.
Et nous allons peut-être terminer par là sur ce dossier. Hier encore, vendredi, il y a eu des manifestations en sit-in, alors cette fois-là, devant le siège même de la SONAS. S'il faut jouer aux sapeurs-pompiers, quel message vous donnerez aujourd'hui à la direction générale et à ses agents qui sont surchauffés?
Donc, je crois qu'ils doivent dialoguer. Les syndicats sont faits pour cela.
Panorama économique, matière première.
Matière première, nous nous rendons en province orientale et à Doko plus précisément, où elle a eu lieu hier la cérémonie d'ouverture officielle de la mine de Kibali Gold Mines à la production. Mais il faut dire que la mine s'ouvre sans un bon entendement entre Kibali et son partenaire Sokimo qui lui a vendu des gisements, si on peut le dire ainsi. Honorable, vous connaissez aussi bien ce dossier, mais avant de vous donner la parole, on va écouter un syndicaliste de la province orientale, puisque hier c'était le 1er mai, la journée internationale du travail. L'Ituri a aussi célébré cette journée, occasion pour l'Union nationale des travailleurs du Congo sur place de hausser le ton. Elle décrit les conditions sociales des agents de la société minière de Kilomoto Sokimo en sigle. Selon le syndicaliste que vous allez entendre, plus de 1700 agents de cette entreprise accusent des arriérés de salaire de 24 mois. Une situation qui pousse leur famille à mener au quotidien une vie de misère. Le secrétaire général de l'UNC Ituri, James Ngala, est au micro de notre confrère Jean-Claude Loki. On l'écoute.
Il fallait qu'on paye quand même les pas des portes, les royalties de 10% sur la période de 5 ans. Bon, même s'il fallait attendre 5 ans pour commencer à payer ça, mais la société est en train de mourir. Nous, on était en train de demander à ce qu'on paye ça, ne fût-ce que par palier, ça peut faire revivre la Sokimo. C'est notre, c'est l'héritage en fait, en Ituri. La conséquence est telle qu'on ne sait plus vivre, on a des dettes qu'on ne sait pas apirer. Il y a des gens qu'on renvoie des maisons d'habitation, les enfants n'étudient pas. Maintenant, on ne fait que passer toute sa nuit ici et sa journée en train de veiller, crier pour que peut-être le gouvernement congolais aura pitié des agents de la Sokimo. Ce que je peux dire au gouvernement congolais, c'est un, de se montrer responsable par rapport à ces contrats qui lient Kibali à la Sokimo ainsi que le gouvernement congolais, et imposer à ce que Kibali, en tant qu'une société qui est venue chercher à faire ses affaires ici, à respecter les droits congolais et particulièrement en matière de royalties pour la Sokimo afin qu'elle survive.
Les agents et cadres de la Sokimo doivent survivre, c'est ce que nous dit ces syndicalistes de l'UNC, je crois l'Union Nationale des Travailleurs du Congo, à l'occasion, donc, je disais, l'inauguration des mines de Kibali Gold Mines. Vraiment, il y a trop de plaintes cette semaine, honorable. On est passé des armateurs qui se plaignaient de multiplicité de taxes. On passe à la SONAS avec la grogne salariale et encore un autre dossier, c'est avec ce partenariat Kibali Gold Mines et Sokimo.
Kibali Gold Mine, c'est une société qui a commencé une activité exploratoire sur un terrain où il n'y avait pas encore des études géologiques et a découvert un très bon gisement. Et que pendant la période d'exploration, Kibali Gold Mine a payé à son associé, Sokimo, des montants mensuels de 350 000 dollars chaque mois. Mais en même temps, Kibali Gold Mine a découvert un gisement qu'il a mis à la disposition de Sokimo pour que Sokimo l'exploite à 100% à titre personnel, pour ainsi dire. au-delà de cela, Kibali Goldman a donné une unité de traitement modulaire à Sukumo pour lui permettre qu'une fois qu'il a extrait ces minéraux, il puisse les traiter et en sortir des lingots d'or.
Mais c'est pour eux que c'est des machines qui ne fonctionnent que...
Non, c'est encore une fois de fausseté. Cette machine, moi je l'ai visitée, simplement ils ont été seulement testés à vide. Et quand vous faites des tests de machines, il peut toujours y avoir des petits réglages à faire. Même du machine neuve, parce que là, à l'occurrence, ce sont des machines neuves. Mais simplement, la Sukumo, quand elle dit ça, elle n'a même pas approvisionné cet équipement à une tonne de minéraux pour vérifier s'il fonctionne. Au-delà de cela, Kibali Goldman a réhabilité les barrages d'Enzoro qui lui permet d'avoir de l'énergie. Donc aujourd'hui, la Sukumo, c'est une société qui devrait logiquement produire de l'or et être autonome.
Mais
et
elle
attendre.
N'a pas de moyens.
Les moyens existent. Laissez-moi vous dire où sont les moyens.
Mais où vont ces moyens? Où va l'argent que
Daniel
Kibali
c'est ça,
paye?
C'est ça la grande question.
Je vais
vous dire que Sukumo a eu de l'argent. D'abord, Sukumo était actionnaire d'Akibali Goldmine à 30%. En 2009, Sukumo se décide de vendre 20% et il a eu 116 millions de dollars. Tout l'argent n'est pas resté dans Sukumo. Les trésors publics en a récupéré une bonne partie, mais il y en est resté tout de même 36 millions de dollars.
Sur les 100, c'est quand même trop le trésor
non,
aussi.
Non, l'État doit vivre. Liste des taxes et autres qui viennent.
La main d'œuvre doit aussi vivre.
Oui, mais je vous dis, c'est là qu'il y a des aberrations. Parce que dans les 36 millions que la Sukumo a gardés, il lui était demandé par le gouvernement d'utiliser 8 millions pour un plan de retraite et payer les arriérés. Rien n'a été fait. 8 millions pour construire des infrastructures communautaires. Rien n'a été fait. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui s'est passé? La Sukumo s'est permis encore de vendre un certain nombre d'infrastructures. Une ancienne unité de traitement, des hangars et un gisement, un terril, donc des rejets qui étaient là, il les a vendus encore à Kibali Goldman à 6,3 millions de dollars. On ne sait pas où est parti l'argent. La Sukumo a demandé des acomptes sur le dividende de 6 millions de dollars. Mais tout cet argent-là, quand la direction les reçoit, on n'arrive pas à savoir où va cet argent. Et donc, les agents de la Sukumo devraient plutôt se plaindre de la mauvaise gestion de la Sukumo plutôt que d'attaquer leur partenaire qui lui n'a respecté que les droits.
Et pendant ce temps, oui. La Sukumo quand même a une tutelle, c'est le ministère de portefeuille.
Absolument.
À ce moment-là, on peut encore parler du ministère de Mines.
Oui.
Que font ces deux ministères? Je me rappelle la semaine qui s'achève, il y a eu une réunion au ministère de Mines entre le ministre de Mines et le ministre de portefeuille avec la grande délégation syndicale de Sukumo. Mais au sortir de la réunion, en tout cas, ils ont tous gardé leur langue dans la poche. Même le DG de Sukumo n'a pas voulu parler. C'est le syndicaliste. Il nous dit, bon, nous nous rendons compte le gouvernement à nos côtés pour que la situation soit décantée. Ils ont promis quelque chose, mais qu'ils ne nous disent pas maintenant. Ils vont nous dire après l'inauguration des mines de Kibali. C'est un flou autour de ça. Où va l'argent que Kibali paye à Sukumo? L'État doit exercer son pouvoir en ce moment-là. Puisque ce sont des entreprises. Sukumo est une des entreprises de l'État pour le moment.
Nous allons en savoir plus parce qu'il y a un collègue, l'honorable Cavarios, qui a posé une question orale avec débat au directeur général de la Sukumo.
Il
vient nous répondre.
C'est
nous
ça,
attendons.
Si on peut prendre ce rendez-vous.
Non, je ne sais pas la programmation du bureau de l'Assemblée nationale, mm-hmm. pas de moi.
Mm-hmm.
Mais quand sera programmé, nous reviendrons en discuter. Mais je voulais dire quelque chose par rapport à ce que le syndicaliste a affirmé en disant que Kibali Goldman doit respecter le droit congolais. Mais le droit congolais, c'est quoi? C'est d'abord le code minier qui régit ce secteur. Et le code minier dit que les entreprises minières payent une redevance minière. Pour le cas de l'or, ils payent 2,5%. Ils payent des impôts et taxes. Les contrats qu'ils ont signés entre parties, qui du reste a été soumis à la renégociation du contrat minier en 2008, dit que Kibali Goldman ne payera que ces 2,5% impôts et taxes en plus, mais pas de royalties ni à l'État, ni à ses partenaires.
C'était sciemment omis?
Non, comment on peut omettre une chose comme celle-là? Parce que les contrats avaient été signés. D'abord, à l'époque, c'était Borgakim qui avait signé avec Sukumo. Plus tard, ça a été vendu à Anglo Gold, à Shanti et Randgold. Ils ont eu le temps de pouvoir éventuellement mettre cette question sur la table. Donc, la négociation du contrat minier s'est terminée. On n'a pas
demandé, non seulement on n'a pas demandé, mais on a noir sur blanc écrit dans les contrats que cette société-là ne paiera que le 2,5% conformément à l'article 240-241 du code minier et qu'ils ne paieront aucun autre royalty ni à l'État ni à ses partenaires. Ça a été écrit.
C'est quand même dans ce qui se passe aujourd'hui, mettons Kibali de côté, posons-nous la question entre nous Congolais, entre comité de gestion, face à face, et posons-nous des questions. C'est ce que vous voulez
absolument
dire.
Absolument, je crois que c'est ça la démarche, et nous l'avons déjà entamée.
Et au-dessus de nous, l'État congolais, à travers les deux ministères de tutelle, de poser au devoir d'ouvrir les yeux et de dire la vérité.
Absolument, donc nous allons étape par étape, nous estimons quand même qu'il y a un problème au niveau du comité de gestion, il faut qu'il nous explique. Et si nous n'avons pas d'explication claire au niveau de la direction de Kibali Goldman, nous allons passer à l'interpellation qui a comme conséquence demander la révocation du comité de gestion. Mais en même temps, nous allons aller à l'échelon supérieur, interroger les ministres des mines et celui du portefeuille qui nous explique pourquoi des sanctions n'ont pas été faites à l'endroit de ces personnes-là.
Beaucoup d'argent.
Absolument.
Engagé, encaissé, mais...
Quand on voit les cumuls des montants que Kibali Goldman a payé à Sokimo, c'est plus de 55 millions de dollars. Il faut quand même qu'on nous dise où va cet argent-là. Et donc, en tant que parlementaire, nous allons faire notre travail et l'opinion saura ce qu'il en est.
Et c'est par là que nous allons refermer Panorama économique et je vous invite à suivre, à continuer à écouter sur www.radiookapi.net. Et Alain Goy qui était à la prise de son, merci aussi à lui et très bonne fin de semaine à toutes et à tous.